de l'âme, il n'y a pas d'égalité. Difficile d'évoluer en toute légalité. Ce que nous avons enduré, ils n'en ont pas la moindre idée. J'en ai perdu des années, mais j'ai conservé ma fierté.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Joy au pays des droits de l'homme. L'émission explore les dimensions juridiques et philosophiques de la doctrine des droits de l'homme. C'est un corpus de textes qui dépend des conventions internationales telles que la CEDH et les pactes jumelles de l'ONU sur les droits civiques et politiques et les droits économiques et sociaux. Grâce aux explications de nos experts invités, nous analysons l'application de ce droit dans le droit interne, notamment en France. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un juriste italien ayant de l'expérience au sein de la Cour européenne des droits de l'homme, Maître Federico Di Salvo. Bonjour.
Bonjour et merci pour l'invitation.
Vous êtes professeur de droit et expert en contention internationale. Pouvez-vous nous expliquer le poste que vous avez occupé à la Cour européenne des droits de l'homme?
Depuis 2014 jusqu'à 2018, j'ai occupé les postes juristes ou référendaires assistant à la Cour. Dans ce formidable organe supranational, la Cour, qui est un véritable gardien européen du respect des droits de l'homme, les juristes assistants et les référendaires du greffe de la Cour ont pour tâche principale l'instruction et le traitement des milliers de requêtes individuelles qui se rapportent au système juridique du pays dont ils sont ressortissants, soit dirigés contre les pays d'origine, soit provenant de ces pays, soit formés dans la langue de ces pays, et qui parviennent quotidiennement à la Cour. La requête individuelle est, comme la Cour l'a qualifiée, la clé de voûte du contrôle juridictionnel sur le respect des droits de l'homme. À la fois l'instrument grâce auquel tout particulier, toute personne physique ou morale qui se prétend victime d'une violation d'un droit protégé par la Convention peuvent mettre en cause l'ordre juridique d'un État membre et les dénoncer à la Cour pour manquement aux obligations découlant de la Convention européenne. Bon, les systèmes de traitement du contentieux de la Cour, qui est de plus en plus efficace, prévoient un examen strict de la recevabilité des requêtes. Le traitement des dossiers a donc plusieurs stades, la recevabilité et les fonds. Et dans cette procédure d'instruction, les référendaires examinent la recevabilité de la requête, rédigent des notes, des rapports, des propositions de décision, et ainsi faisant, assistent les juges dans la décision. Alors, moi, en tant que juriste italien, je travaillais dans la division italienne, chargée du tri du contentieux, du grand contentieux italien, un des plus volumineux de la cour, pendant à la Cour. Et j'ai traité des milliers d'affaires portant sur l'équité des procédures judiciaires, sur la durée excessive des procès, sur les expropriations illégitimes, sur les respects de la vie privée et familiale et d'expression. Bon, c'était à la fois une manière de contribuer à la sélection des affaires vraiment méritantes pour les contrôles de l'état de santé, du respect des droits de l'homme et de l'état des droits.
Alors, vous êtes passé de juriste droit de l'homme à professeur de droit en Italie. Quelle matière enseignez-vous?
Alors, bon, contrairement à votre généreuse présentation, j'aimerais tout d'abord préciser que je suis chargé des cours, et assistant professeur, en tant que docteur de recherche et avocat expérimenté en la matière des droits de l'homme. Je ne suis pas donc inséré dans la carrière académique, mais c'est plutôt un choix des universités, des facultés, d'appeler des experts pour dispenser, délivrer des cours et côtoyer les professeurs pour l'activité didactique, les examens, les séminaires, les colloques ou les travaux dirigés. Alors, au sein de l'université de Sienne, en Italie, j'étais donc appelé à dispenser des cours en matière de droit et contentieux européen et international des droits de l'homme. Alors, nous étudions la Convention européenne, les systèmes de recours et les interactions entre les remèdes nationaux et les remèdes internationaux pour redresser les violations des droits de l'homme, et nous simulons des procès devant la Cour européenne. Pareillement, étant donné que depuis ma maîtrise en philosophie du droit, j'ai toujours cultivé la philosophie du droit et la théorie de l'argumentation et de l'interprétation juridique, J'étais également appelé par l'Université de Florence à tenir des cours et assister les professeurs de philosophie de droit.
Ce qui m'amène à ma prochaine question. En quoi consiste la philosophie du droit?
Bon, c'est une grande question. Alors, la philosophie du droit, c'est la discipline qui s'occupe des grandes questions autour du droit. Bon, qu'est-ce que c'est la justice? La différence entre l'être et les devoirs être, hein, et l'engagement pour un meilleur droit possible, ou la définition de ce que c'est les droits et la différence entre les droits et d'autres systèmes normatifs, la morale, l'éthique, la différence droit-coutume, la différence droit-tradition, droit-règles sportives ou même droit-règles religieuses. L'interprétation des normes et les méthodes de l'étude du droit, ou encore l'argumentation juridique, finaliser la persuasion ou à la motivation des décisions de justice, ou la logique judiciaire, ou les dialogues entre les droits et les autres savoirs et disciplines en vue de la résolution des problèmes sociaux les plus urgents et des questions ultimes. Par exemple, le dialogue entre le droit et la sociologie ou la criminologie pour aborder les problèmes de la peine, la prévention des crimes, la réhabilitation du condamné et les surpeuplements carcérales, ou le dialogue entre le droit et les sciences biologiques et philosophiques générales, ou même théologiques, pour résoudre et démêler les questions du début et de la fin de la vie, et en général les questions socialement et éthiquement sensibles, ou même le dialogue entre le droit et les sciences technologiques, pour discipliner l'informatique, l'intelligence artificielle, les questions éthiques liées à l'intelligence artificielle, et les grands défis de la possibilité du juge automate ou du juge robot.
Quels sont, selon vous, les chevauchements entre la philosophie du droit et la doctrine des droits de l'homme, telle qu'elle est incarnée par la Cour européenne des droits de l'homme?
Là aussi, c'est une grande question, parce que la doctrine des droits de l'homme, qui est à la fois une véritable proposition d'une anthropologie, c'est-à-dire d'un type d'homme, d'une vision possible de l'être humain et des pouvoirs publics qui soient respectueux des libertés fondamentales, solidaires, équilibrées, rationnelles et loin de l'arbitraire, cette doctrine des droits de l'homme est née par un effort avant tout philosophique. Un effort philosophique des illuministes, et en particulier des illuministes européens et français, qui à la fin du XVIIIe siècle ont conjugué les désirs de connaissance et les désirs d'un droit et d'une justice rationnelle et l'ambition à l'universel, et l'ont conjugué avec les acquisitions philosophiques gréco-romaines d'un côté et l'héritage des valeurs qui appartiennent à la tradition judaïco-chrétienne, qui sont finalement la marque de l'histoire des idées en Europe, et à l'idée de la codification des normes juridiques, qui est pour assurer la sécurité juridique et la primauté du droit, même sur les pouvoirs et sur la politique. Alors, les grandes déclarations de fin du XVIIIe siècle et les développements de la doctrine de l'état des droits du XIXe siècle n'ont pas apparemment été suffisantes, parce que les guerres ont fait rage après, les régimes despotiques et totalitaires ont pris le pouvoir, et les pouvoirs publics avaient dépassé leurs limites juridiques. Alors, c'est ainsi qu'après les deux guerres mondiales, les grands conflits mondiaux, des déclarations universelles et régionales ont ressurgi pour promouvoir la paix, la démocratie et l'état des droits. Ces déclarations, ces cartes de droits et libertés font partie du droit international et du droit régional européen des droits de l'homme. Enfin, un spécial système mutuel de contrôle a été créé en 1949-50, qui est le système du Conseil d'Europe, justement, hein, gardien de la démocratie et de l'état des droits, avec son grand pacte européen qui est la Convention européenne, qui relie et oblige actuellement 46 États membres, États parties contractantes des États nationaux, et le système régional européen de contrôle sur les États nationaux confié à la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, si l'on regarde à travers les siècles, depuis l'ensemencement de la philosophie gréco-romaine et puis avec tous les développements de l'histoire du droit, des idées, des religions, les avances et les reculs historiques, la Convention européenne est l'héritière directe de la codification des droits de l'homme et de la philosophie européenne. Alors, dans ce panorama, nous, les Européens, pouvons être fiers. Notre système de déclaration, c'est-à-dire la Convention, et des justiciabilités des contrôles, c'est-à-dire la Cour, sont les plus anciens, les plus effectifs de la planète, les plus avancés.
Vous êtes formateur HELP. Pouvez-vous nous expliquer aux auditeurs ce que c'est et dans quel domaine vous intervenez?
Oui, alors HELP, qui s'appelle comme aide en anglais, HELP, est un génial acronyme anglais de Human Rights Education for Legal Professionals. Un programme de formation et d'éducation au droit international européen des droits de l'homme et à la CDH pour les professionnels du droit, les magistrats, les avocats, les opérateurs de la société, de l'éducation, de l'administration, mais aussi pour tous les individus promus par les conseils d'Europe et financés par les conseils d'Europe et l'Union européenne. Alors, l'ambition du projet HELP est la mise en œuvre de la Convention au niveau national, tout en renforçant la capacité des juges, des procureurs et des avocats dans les 46 États membres à appliquer la CDH dans leur travail quotidien. Alors, le projet HELP fournit un accès libre, un large éventail de ressources de formation, des dizaines de cours d'apprentissage à distance et des ressources d'auto-formation. Alors, si pour parvenir à la paix, nous avons besoin des droits de l'homme et de l'état de droit, et si la Convention est l'instrument de codification du droit européen des droits de l'homme, et les droits de l'homme sont surtout une culture, un style, un système de valeurs et des convictions personnelles, alors faut divulguer, faut apprendre et diffuser cette culture et ces notions et agir au niveau de l'éducation. Alors, c'est un cercle vertueux. Alors, dans le cadre de ce programme, pour diffuser ces ressources, tous les formateurs comme moi, reconnus par les conseils d'Europe, sont appelés soit à concevoir, rédiger ou construire ces ressources, ces manuels de cours, soit, une fois conçus et rédigés les matériaux dans la langue de travail, l'anglais, par exemple, sont appelés à les traduire dans les différentes langues des pays de l'Europe et à les adapter aux systèmes juridiques nationaux et systèmes juridiques et conceptuels et aux peculiarités des pays des ordres juridiques des pays nationaux. Alors, soit divulguer et dispenser en qualité de tuteur des cours, soit s'occuper de cette traduction et adaptation aux différents systèmes juridiques nationaux. Alors, dans ma carrière de formateur HELP, je me suis occupé surtout de ces deux dernières tâches, adaptation juridique des textes et tutorat des cours en faveur des juges et des avocats.
OK. J'aimerais maintenant vous poser quelques questions sur l'arrêté SPES que vous avez fondé il y a 3 ans. D'abord, que signifie SPES?
Alors, SPES, c'est toujours, tout d'abord un acronyme. S comme service, solution et stratégie. P comme pour la promotion de la personne humaine et de la paix. E comme éducation. S final comme studio international, c'est-à-dire un cabinet international. Alors, si l'on entend aussi selon l'ancienne signification latine, spes signifie aussi espoir, espérance. Ça double signification. Alors, sur cette base idéale, spes est né comme un réseau de professionnels des sciences sociales, humaines, juridiques, politiques et internationales au service de la personne, des cabinets d'avocats, des particuliers, des entreprises, des organismes et des institutions pour la protection et la promotion des solutions durables pour la personne, pour les droits, pour la paix, avec un regard positif et constructif vers l'avenir. Alors, nous avons dans nos équipes des avocats, des sociologues, des experts des politiques internationales, des blogueurs, des activistes, des éducateurs et même un philosophe un expert des neurosciences, un logicien, un graphologue. Alors, c'est une sorte d'association, même quelque chose de moins contraignant. Nous sommes surtout amis, mais nous sommes des professionnels qui partagent ces buts, surtout une vision et une anthropologie commune. Nos engagements se focalisent sur les matières des droits fondamentaux et de la non-discrimination et s'expriment à travers nos activités de défense, formation, éducation, conseil et médiation. Alors, les sujets et les thèmes abordés, les affaires et les cas qui nous sont soumis relèvent des grands défis du quotidien, mais aussi nous entrons dans les écoles pour un travail de sensibilisation, d'éducation civique et de citoyenneté responsable. Les professionnels sont aussi des experts internationaux et les réseaux, un réseau qui inclut des partenaires à la Belgique, en Angleterre et en France et en Espagne. Et souvent, c'est grâce à ces réseaux, des collègues qui ont reçu des tâches et des affaires très importantes à porter devant les différents cours nationaux ou à la Cour européenne.
Donc, ma question était, est-ce que vous avez principalement une clientèle italienne ou plutôt internationale?
Alors, oui, notre clientèle est formée par particuliers, entreprises, écoles, les jeunes, les détenus, les immigrés, des étrangers et entreprises internationales qui opèrent dans les contextes italiens et relèvent de la juridiction italienne, ou en général des situations où les pouvoirs publics de chaque État européen interfèrent et ont une ingérence sur les droits et libertés tel qu'est conventionnellement reconnu. Du coup, on a aussi une clientèle internationale de n'importe quel pays et nous les défendons devant la Cour européenne. Moi, j'ai des clients français et allemands, par exemple, dans des affaires contre la France et l'Allemagne, par exemple.
OK. Quels sont les exemples d'arrêts dans lesquels vous êtes intervenu?
Alors ça, c'est difficile et il y a un peu de... C'est un peu confidentiel encore parce que beaucoup d'affaires sont pendantes et sont couvertes par un secret d'instruction. Hein. Mais en général, je peux dire qu'on couvre des grandes affaires de quitter de la procédure civile et pénale, les grands procès injustes qui s'achèvent par une issue tout à fait injuste, hein, et bon, au détriment des accusés ou même des victimes, hein, par déni de justice et qui un dommage qui constitue un préjudice pour les victimes, ou encore des grandes expropriations illégitimes de la part des autorités, ou la non-reconnaissance de certains. Moi, maintenant, je m'occupe d'une affaire très grande, et c'est la non-reconnaissance de certaines indemnités et certaines voies du salaire des pompiers en Italie. Alors, plus que 10 000 personnes qui sont pompiers en Italie et qui ne se voient pas reconnues des indemnités liées aux leurs risques, les risques qui passent dans leur service quotidien, hein. Et là, c'était une discrimination par rapport aux autres forces de police qui reçoivent ce type d'indemnité et pas les pompiers, non? Même si les risques sont pareils. Hein? C'est une hypothèse de discrimination. Ou encore des graves situations de déni de justice à l'issue des procédures civiles et pénales portant sur des questions cruciales de la vie des personnes, des graves négligences médicales, des aides aux handicapés, ou encore des affaires de traite des êtres humains, ou encore des affaires très délicates qui s'achèveront bientôt aussi devant la Cour, qui portent sur violations et crimes perpétrés à l'encontre de mineurs ou des groupes de vulnérables par des agents de l'État ou des éducateurs ou formateurs de l'État qui n'ont pas eu justice. Hein. Et du coup, il y a toujours des affaires très délicates qui relèvent d'une matière si sérieuse comme les droits de l'homme. Oui.
OK. Quels sont, selon vous, les avantages du système de contentieux européen et y a-t-il des défauts?
C'est une grande question, madame. Alors, les avantages sont indubitablement la possibilité pour un individu, pour la personne humaine, de réclamer les droits humains inaliénables et indispensables qui lui ont été bafoués par les pouvoirs publics en déclenchant un système de recours individuels qui les place au même niveau que les États nationaux. Bon, les particuliers deviennent un sujet des droits internationaux publics. Puis, il y a bien évidemment une supervision impartiale, indépendante et supranationale sur les comportements des États européens. Ça aussi, c'est un grand avantage de notre système, qui constitue aussi une limite au souverainisme et une limite à l'arbitraire. Et aussi, une fixation de standards communs pour toute l'Europe, une véritable harmonisation en vue d'un progrès juridique commun, toujours en gardant le respect pour les traditions communes et les marges d'appréciation politique relevantes des cultures et pratiques particulières nationales. Un bon équilibre, ça. Mais les défauts du système du contentieux européen aussi sont assez clairs. Hein. Ce que l'on dit communément entre la doctrine et l'opinion publique, c'est que la Cour est victime de son succès. C'est-à-dire qu'il y a une telle diffusion de cette possibilité du recours individuel que se vérifie une pléthore de requêtes et un embouteillage dans les traitements et sans doute, je dirais, une excessive durée du traitement de la procédure européenne devant la Cour même. Hein, les affaires pendantes durent, les procédures durent beaucoup aussi devant la Cour européenne, même si la durée raisonnable, c'est un principe même de la Convention. Mais je suis certain qu'avec des majeures attentions, et là, dans ce sens, je peux dire que la Cour a amélioré l'administration a beaucoup amélioré, les systèmes seraient encore plus fiables et alors nous pourrions vraiment guider les standards de protection des droits de l'homme pour toute la planète, parce que notre système est le plus avancé.
Sur cette note optimiste, oui. Je vous remercie d'avoir accepté de parler dans l'émission. Et merci, j'espère vous. Que vous serez de nouveau de passage à Strasbourg.
Avec plaisir.
Merci beaucoup.